au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette au fil des pages consacrée à la culture générale. Il est évident que sous la coupole, nous ne pouvons rester indifférents à cette problématique qui concerne aussi bien les jeunes générations qui vont passer peut-être leurs examens que les aînés qui veulent toujours apprendre, puisque dans notre vie, on ne cesse jamais d'apprendre jusqu'à la dernière seconde. Apprendre, toujours apprendre, mais voilà, dans quelle direction ? Allez, ce n'est pas si simple. Alors, certaines personnes ont eu la bonne idée de constituer des guides en matière de culture générale, parce que les choses ne sont pas si évidentes que cela. C'est avec Frédéric Lepisse. Bonjour Frédéric Lepisse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de ce dictionnaire de la culture générale aux presses universitaires de France que vous aviez édité une première fois en 2000, qui a été réédité en 2005. Vous êtes professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à Versailles. C'est vous qui avez eu cette idée comme ça de vous dire, tiens, pourquoi pas un dictionnaire ?
Il est vrai que cette idée est assez saugrenue. J'ai été assez frappé par mes expériences d'enseignants qui en fait ont résonné dans une expérience personnelle, à savoir que il y a un moment où on fait l'épreuve un peu douloureuse de certaines lacunes. Il y a comme une sorte de palimpseste, des choses qui manquent pour relier, et du coup le sens finit par être lui-même lacunaire ou absent du fait qu'on n'arrive pas à resituer les idées dans leur contexte, dans leur histoire. Un certain nombre de ramifications manquent. Et je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux, dans un ouvrage assez conséquent, de donner la parole à des spécialistes de disciplines diverses, de manière à les faire s'articuler, de sorte que le lecteur puisse combler ses lacunes avec un système d'index thématique, de renvoi chronologique et d'articles.
Qui n'existait pas jusqu'à présent. On pense spontanément comme ça à l'encyclopédie universaliste, bien sûr, un monument, mais qui n'est pas forcément accessible.
Alors effectivement, donc il y a beaucoup d'ouvrages très très utiles qui relèvent plus de l'érudition, qui permettent d'approfondir un sujet précis. C'est le qui vise à faire le tour, comme le mot encyclopédie le dit. Mais il n'existait pas d'ouvrage adressé à l'honnête homme qui permette une approche complète et diversifiée, qui permet justement d'entrer dans ces jeux de miroir que sont les idées, les mythes, les héros, les symboles.
Y a-t-il eu un instant dans votre vie de professeur où vous êtes dit, en écoutant telle ou telle réplique ou telle réflexion d'étudiants, d'élèves, là, ce n'est plus possible, il faut absolument faire quelque chose?
Alors effectivement, il y a toujours un bêtisier de professeur qui laisse parfois assez inquiet devant un abîme d'ignorance ou de confusion. Et donc, il est sûr que c'est aussi un spectacle assez touchant de voir des étudiants pleins de bonne volonté qui se mettent à situer Alexandre le Grand au 5e siècle après Jésus-Christ et qui n'ont pas le moindre sens de la chronologie. Parce que ce qui est en péril, je pense, c'est quand même le sens. À mes yeux, il y a quand même une logique de la chronologie. Et ça, c'est peut-être un mode d'accès aussi privilégié de la culture générale.
Car l'histoire n'est plus enseignée sous forme chronologique.
Alors, il y a eu beaucoup de réformes de l'enseignement de l'histoire, en effet. Et on a eu aussi à hériter, en quelque sorte, d'une réflexion sur le statut de la chronologie. On peut penser à l'école des annales, qui appréhende l'histoire sur la très longue durée et qui a une approche à partir des structures. Donc il y a une certaine légitimité de cette approche non chronologique, sans doute. Mais au plan de la formation personnelle, il est certain que les repères chronologiques sont nécessaires. Oui.
Comment vous êtes-vous attelé à cette tâche de mettre en boîte, si je puis me permettre cette expression, la culture générale ?
Alors, il ne s'agissait pas de mettre en boîte, effectivement, mais de mettre en ordre ou de remonter aux fondamentaux. Et donc, la logique a été de se dire, au fond, mais qu'est-ce qui nous habite, nous, après 25 ou 35 siècles d'histoire. Donc, qu'est-ce qui peut nourrir notre pensée, notre sensibilité, notre imagination? D'où une tentative qui vaut ce qu'elle vaut, d'identifier les grands courants de pensée, les grands mythes, les héros, les symboles, les grandes logiques qui président aussi aux religions. Et tout bêtement, je me suis livré avec mes amis collaborateurs à une sorte de recensement de ce qui était indispensable pour nourrir la pensée.
Mais on est tout de suite devant une tâche monumentale, il faut bien faire des choix.
Effectivement. Donc, après l'enthousiasme est venu le vertige de l'angoisse, parce que il est bien évident que ce recensement a appelé une sorte de tâche infinie et il a fallu faire des choix. Mais on peut dire que les choix eux-mêmes ont été l'occasion d'une réflexion de fond. Et on s'aperçoit qu'il y a des hiérarchies, que certaines pensées sont elles-mêmes supportées par d'autres, même s'il ne s'agit pas d'amalgamer tout à tout. Mais donc, par exemple, si on veut avoir une intelligence d'une pensée linguistique, de Saussure, par exemple, ben on peut remonter à un arrière-plan nominaliste, à Guillaume d'Occam, ou à d'autres. Donc, l'idée, c'était de traquer les filiations. Et donc, à partir de là, de remonter à des souches communes qui nous ont permis d'opérer certaines hiérarchies.
Alors, comment, donnez-nous un exemple, comment navigue-t-on, on parle de naviguer maintenant avec Internet, comment navigue-t-on dans ce dictionnaire? Est-ce qu'on le feuillette comme ça? Si je cherche un mot, je dois procéder d'une manière particulière, dans le sens où comment je reconstitue l'unité d'esprit autour de ce mot.
Alors, donc nous avons choisi la forme du dictionnaire qui peut en apparence apparaître en contradiction avec cette exigence d'ordre logique, chronologique.
Parce que le dictionnaire segmente.
Parce que le dictionnaire segmente, effectivement. Et l'ordre alphabétique est un ordre qui est conventionnel et finalement arbitraire. L'ordre alphabétique a été choisi, malgré tout, pour permettre une lecture transversale et libre. L'objectif, c'est que cet ouvrage est offert à différents profils ou à différentes recherches. Donc, l'honnête homme qui a déjà quelques idées et qui veut revoir tel ou tel point, ou qui, comme La Fontaine, va de fleur en fleur et de bouton en bouton, il peut justement avoir plaisir à cette liberté qu'offre l'ordre alphabétique, sans contrainte, donc pour revoir quelque chose ou pour se laisser attirer. Mais ce n'est pas évidemment le seul mode de lecture, puisqu'il y a quand même un souci de formation intellectuelle de quelqu'un qui serait néophyte. Et donc pour cela, il y a des index, il y a un index thématique qui est assez développé. Donc ce qui permet une entrée conceptuelle. Donc à partir d'une notion, on va pouvoir se reporter au grand courant qui permet de l'éclairer. Il y a des index chronologiques et des index textuels. Donc on a des entrées multiples qui permettent de se retrouver un ordre dans le caractère arbitraire de l'ordre alphabétique.
Donc si on a la référence d'un texte mais qu'on a oublié le nom de l'auteur, inévitablement on pourra
grâce
au repérer comme ça.
Aux index, on pourra se repérer tout à fait. Oui.
Quels sont les sujets que vous avez voulu mettre en valeur, puisque vous avez parlé des courants de pensée, des fondamentaux, de toutes ces logiques, traquer les filiations dans tous les domaines, traquer les filiations, c'est aussi une œuvre considérable.
Effectivement, donc on est parti de l'idée que la culture générale, c'est un petit peu le point de vue de l'honnête homme, tel que Pascal pouvait le dépeindre par référence au chevalier de Méret. C'est celui qui a une intelligence des différentes réalités en les comprenant par leurs principes. Donc il ne saura pas tout de la physique quantique, mais il aura en gros compris l'enjeu principal de la physique quantique relativement à la mécanique ou à la physique galiléo-cartésienne.
Donc ce n'est pas une connaissance dans le détail intime technique.
Voilà, ce n'est pas une connaissance technique, mais c'est comprendre la logique d'ensemble. Mm-hmm. L'objectif était de couvrir différents domaines. Donc, histoire des sciences, des religions, histoire envisagée pas au sens sous l'angle événementiel, mais disons une compréhension des grandes périodes, littérature, philosophie, théologie, et pensée politique, et histoire de l'art, évidemment. Alors l'ouvrage, pour justement permettre aussi de serrer quand même un petit peu plus nettement les domaines, j'ai préféré donc coupler une bipolarité à l'ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux parties dans l'ouvrage. L'une qui est consacrée au courant de pensée et l'autre qui est consacrée au mythe, au héros, au symbole. Donc une plus, on pourrait dire, conceptuelle, théorique, et une plus narrative, si on voulait dire les choses de la sorte.
C'est vous qui l'avez voulu ainsi ?
Oui, ça m'est apparu assez rapidement comme permettant de clarifier, et ce qui permet aussi d'accroître aussi les systèmes de renvoi de l'une à l'autre, d'une partie à l'autre partie.
Donc, Frédéric Lopez, je rappelle que vous êtes professeur agrégé en classe préparatoire à Versailles, l'auteur de ce dictionnaire de culture générale aux presses universitaires de France. C'est un ouvrage que vous avez dirigé avec des collaborateurs dont vous pouvez nous dire un mot, parce que j'imagine que vous n'avez pas écrit aussi bien que ce soit sur Pascal, la physique quantique ou le débarquement de 1944, j'imagine que ce n'est pas vous qui avez tout fait.
Non, donc la logique était de réunir des gens intéressés par le projet, et puis si, donc dans le cadre de relations amicales. Il y a des agrégés de philosophie, des agrégés d'histoire, de lettres, de biologie, quelques chercheurs au CNRS.
Combien de contributions en tout ?
Donc il y a une vingtaine d'auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. Oui.
Plus dans le domaine littéraire, idées politiques, idées en général que scientifiques ?
Alors la dominante, c'est littérature, philosophie, théologie, histoire des idées politiques. Et l'épistémologie joue un rôle important, effectivement, mais c'est sous l'angle, on pourrait dire, de l'histoire de la pensée que cela intervient.
Au sein de ce vaste domaine de la culture générale, quels sont les champs que vous préférez traiter, dont vous aimeriez nous parler ?
Moi, ce qui me plaît, c'est justement les jeux de résonance. Les jeux de résonance, par exemple, de voir comment quelqu'un comme le penseur, le peintre Kubka, a pu être tout à fait fasciné par la restructuration de l'espace que donne la physique quantique. Donc, c'est ces jeux d'écho, ou alors comment le Raphaël a peint le portrait de Balthazar Castiglione, ce mécène humaniste, auteur du livre du courtisan. Donc, voir comment il y a des jeux de réponses, de résonance, des filiations. Filiations que l'on peut voir aussi à l'intérieur de la pensée elle-même. Donc, des effets de résonance, voir comment Descartes redéploie Saint-Anselme. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie, la vitalité que l'on peut discerner au cœur de la pensée, justement.
Là, c'est un point décisif que vous abordez, puisque la culture générale, ça peut paraître comme un bloc de pensée figée, précisément, qu'il faudrait avaler comme ça, comme on avale des médicaments, pour mieux se porter, ou du moins pour que l'esprit soit plus enrichi. Or, vous partez du principe que l'intelligence, c'est la capacité à relier, faire des relations entre ce qui existe de manière vivante.
Exactement, tout à fait. Je crois que penser, c'est d'abord, en effet, appréhender les relations avec un souci critique, peut-être aussi s'inquiéter de la possibilité de relier. Mais je pense que la culture générale, elle va au cœur du sens. Et on pourrait dire que si les énoncés contraires s'équivalent, il n'y a pas de sens. Donc, pour qu'il y ait du sens, il faut que tout n'ait pas de sens. Et la question est de savoir quelles sont les procédures d'exclusion du non-sens. Et ça, justement, en confrontant des textes extrêmement différents, on peut penser à Montaigne qui pratiquait ce qu'il appelait la farcissure, donc un jeu de citations, de jeux d'abîmes, de textes dans le texte. On peut prendre acte de sens opposés qui, en fait, peuvent être pensés successivement ou sous des angles différents, qui sont des jeux d'écho. Et donc s'inquiéter aussi des jeux d'exclusion eux-mêmes. Et ça, c'est, on pourrait dire, la vie de la pensée, et qui permet justement de penser aussi le rapport entre la culture et les cultures.
Précision, la culture et les cultures.
Parce que on a coutume peut-être d'opposer la culture au sens humaniste, qui aurait une visée universaliste, supposant qu'il y a un honnête homme, peut-être même avec un H majuscule. Cela donc d'un côté la culture que l'on opposerait à aux cultures qui renvoient donc à l'identité d'un peuple ou d'une communauté.
Comme on voit sur les étals, culture du monde.
Culture du monde, voilà, etc.
Une sorte d'exotisme un petit peu, exotisme, un particularisme.
Particularisme, tout à fait. Et donc la cuisine, notamment, est première loge de la culture comprise en ce sens. Mais derrière ça, il y a évidemment un enjeu plus important qui est l'identité, qui peut donner lieu donc à ce qu'on peut appeler le différentialisme ou avec des approches communautaristes, etc. Mais donc dans ce sens, la culture signifie les rites, les symboles, et aussi la vision du monde propre à un groupe. Et donc on pourrait avoir un schéma selon lequel ces deux logiques finissent par s'opposer, puisque au nom des cultures, on pourrait contester la possibilité
d'étrôner la culture.
Voilà, les cultures détrôneraient la culture, au sens où les cultures sont des représentations du monde juxtaposées qui interdisent justement l'idée d'inquiétude d'un sens commun, puisque ce qui vaut pour les uns ne vaut pas pour les autres. Et donc à cet égard, toute perspective de hiérarchisation serait à écarter.
Donc à la fois un relativisme et un particularisme.
Voilà, tout à fait, le particularisme comme argument du relativisme.
Et ça vous semble être l'un des ennemis de la culture générale?
Alors, ça me semble effectivement vu comme cela, c'est-à-dire comme juxtaposition de coordonnées mentales, on pourrait dire, comme un danger pour l'esprit lui-même, parce que il me semble que l'esprit a besoin de racines et donc il se réfère à un patrimoine hérité. Mais tout à la fois, l'esprit est inquiet, il a le souci, et il y a vie de l'esprit là où il y a communicabilité. Et donc, ce que je pense doit pouvoir être pensé par un autre sujet pensant, au-delà des frontières et des coordonnées mentales particulières.
C'est peut-être le sens profond du mot général. Culture générale, c'est voilà. Culture universelle, le fait de pouvoir s'adresser à tout homme avec un grand H.
Exactement, tout à fait. Donc, l'expression culture générale peut être galvaudée, voire vilipendée.
Ah oui, mais il faut la repréciser.
Mais il y a quand même, on pourrait dire, les reproches qu'on peut adresser à la culture générale, ce serait de dire que c'est justement ni philosophie, ni histoire, ni littérature, ni ceci, ni cela. Et donc finalement, ce n'est pas grand-chose. Mais précisément, ça peut être compris à l'inverse. C'est comme ce qui sous-tend toutes les disciplines particulières. La culture générale, c'est la vie de l'esprit en tant qu'elle est orientée vers l'universel.
Et donc sans culture générale, on arrive à une société de conflit.
Tout à fait, exactement.
Et on ne se comprend plus.
On ne se comprend plus, exactement. Et donc on pourrait dire que la culture générale, c'est ce qu'il y a de général dans toutes les cultures. Il me semble qu'une culture particulière est une culture si précisément elle s'offre à la communicabilité. Et donc elle entre dans un dialogue, et un dialogue qui n'est pas réservé à un échange entre deux personnes, mais qui est... Le dialogue est une orientation vers un tiers qui nous est commun, le monde notamment.
Là, on voit que la culture générale n'est pas accessoire.
Voilà, elle n'est pas accessoire. Ce n'est pas un supplément d'âme qu'il faudrait
ou un vernis,
voilà, qui permettrait de converser.
Du coup, de la tartine là qu'on étale.
Exactement. Donc, la culture générale permet de pouvoir converser dans les salons, mais il y a une certaine légitimité de l'art de la conversation, mais la culture générale ne se limite pas à ça, puisqu'elle est effectivement, il y a un enjeu humain fondamental dans la culture générale. Si on sauve la culture générale, si tant est qu'elle soit menacée, peut-être qu'elle l'est, mais si on sauve la culture générale, on sauve la vie de l'esprit, en fait, et on sauve l'humanité de l'homme.
Est-ce que vous estimez qu'elle est menacée? Et par quoi? Hormis le phénomène que vous avez décrit de privatisation ou de relativisme par les autres cultures, enfin par les cultures.
Alors, donc, enfin, la culture, ce qui pourrait menacer la culture, Donc on peut penser.
On a un ministère pour ça quand même.
On a un ministère, tout à fait. Exactement. Oui. Donc cette thématique de la crise de la culture, elle est assez récurrente. On peut penser à l'ouvrage assez majeur de Husserl, la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Et un autre, ce texte de Husserl, il l'a présenté dans une petite conférence, petite par la taille, intitulée « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». Donc cette thématique de la crise qu'on revoit chez Hannah Arendt, crise de la culture, ou chez des gens comme Alain Finkielkraut, la défaite de la pensée, ou une thématique qu'il a pu développer depuis, le noyau, le principiel, me semble-t-il, c'est l'analyse de Husserl, qui justement montre que un des points centraux de la crise de la culture, c'est la réduction de la réalité à l'objectivité scientifique. Donc la réalité réduite à l'objectivité scientifique, ce qu'il appelle l'objectivisme, repose sur une réduction de la raison au calcul. La raison devient ratio. Et de la sorte, on substitue systématiquement la question « comment » à la question « pourquoi ». Et on entre dans une logique qui est une logique d'efficience pure.
Le pourquoi, c'est le sens.
Et le pourquoi, c'est le sens, voilà. Et donc, dès lors, l'inquiétude du sens disparaissant au profit de l'efficience, ce qui disparaît aussi, c'est le souci de soi, c'est la réflexivité. Et ce qui domine, c'est le schéma d'un sujet qui agit sur la nature, mais la dimension de l'intersubjectivité est occultée au profit de cette logique.
Ça, c'est une évolution profonde des sociétés occidentales, techniciennes,
oui,
qui marginalisent, somme toute, la réflexion développée par la culture générale. Est-ce que vous-même, dans les cours que vous donnez, vous recevez quel type d'accueil de la part des étudiants? Est-ce qu'ils vous regardent comme étant une matière essentielle qui va leur permettre d'accéder à tout ce que vous avez décrit? Ou comme quelque chose qu'il faut avoir parce que c'est peut-être le critère qui va vous distinguer parmi d'autres?
Alors, enfin, ma position est assez ambiguë dans la mesure où j'interviens au titre d'une discipline
qui... La philosophie.
Et la philosophie. Mais dans certaines classes, notamment en prépa, aux écoles de commerce, cela est baptisé culture générale. Et donc avec le souci justement d'articuler notamment philosophie et lettres. Donc je viens pour donner une approche non utilitariste dans le cadre de l'utilitarisme, puisque la discipline que j'enseigne est sanctionnée par un examen, et donc c'est assez ambigu. Mais néanmoins, ce que j'ai pu constater, c'est que au-delà du caractère utilitaire de mon discours, les étudiants sont généralement sensibles à ce que cela peut susciter en eux, justement comme interrogation, à ce que ça peut réveiller comme inquiétude, justement portant sur la vérité, sur le sens. Et donc, dès lors qu'on s'adresse à l'esprit, qu'on fait vibrer, qu'on insuffle, qu'on souffle sur les braises,
on a du retour.
On a du retour. Oui.
Est-ce que vous procédez de la même manière que pour le dictionnaire?
Alors, l'esprit
elle-même. Ça peut s'adapter à l'oral.
Ça peut s'adapter à l'oral. Alors, l'ordre alphabétique peut difficilement s'adapter à l'oral, parce que assez rapidement, je pense que les étudiants trouveraient ça assez soporifique de passer de Alexandre à Absalon et de Absalon à Antinomie et de
Antinomie
à Aporie. Et donc, on arrive à Zarathustra pour
faire Zarathustra. Oui, c'est vrai que Zarathustra est toujours à la fin. Oui, c'est vrai.
Mais néanmoins, l'esprit est le même, c'est-à-dire à la fois une épine dorsale chronologique et logique, et une possibilité de se laisser attirer par ce qui surgit, et donc de faire écho à des cultures autres que les cultures occidentales, voir comment les idylles de Théocrite peuvent avoir leur résonance chez Virgile, mais aussi peut-être dans certains textes européens, etc.
Et vous avez, par exemple, quand vous adressez à des étudiants qui préparent une école de commerce, vous orientez vers certains sujets dont vous savez que ça les intéressera davantage que d'autres. Comment adaptez-vous les choses?
Alors donc je sais gré au ministère qui nous a donné un programme de culture générale extrêmement général.
Donc vous faites ce que vous voulez.
Et donc une grande liberté à la condition de justement de d'aller dans le sens de cette épine dorsale, on va dire logico-chronologique. Et donc c'est, il me semble que ce qui est très formateur, c'est justement l'aspect esthétique et le lien justement entre l'esthétique et l'éthique. Donc je parlais tout à l'heure de ce livre de Balthazar Castiglione, le livre du courtisan, ce qui est une réflexion sur la grâce. Et donc avec un arrière-plan théologique, mais repris sous un angle profane. Et donc une réflexion sur la grâce au plan esthétique, qui est en même temps une réflexion sur la grâce au plan éthique. Et là, il y a une manière d'être. Je pense que ce qui est à la fois très très fécond et très attrayant, c'est de voir comment la culture générale peut donner lieu à un savoir-être, un savoir-vivre, donc une sagesse en fait.
Une idée, Frédéric Lopis, des sujets que vous donnez aux étudiants?
Donc les sujets ont pour but justement de les renvoyer à eux-mêmes, et donc il s'agit justement d'appréhender des réalités très simples. Donc un sujet, ça peut être l'initiative, et donc il s'agit de voir comment l'initiative sollicite un rapport au temps.
Donc l'initiative point, sans question.
Voilà par exemple. Essayer de voir les tenants, les aboutissants, et avec peut-être aussi des arrière-plans.
Donc une dissertation, pas de QCM.
Voilà, donc le QCM peut être utile pour vérifier l'acquisition d'informations, mais la culture générale ne se limite précisément pas à des informations, puisqu'il s'agit d'une formation de soi. Et donc l'exercice le plus adapté pour mettre en œuvre justement ce souci de l'âme et ce souci de penser, c'est la dissertation en effet.
Merci beaucoup Frédéric Lopis.
Merci à vous.
Aux Presses universitaires de France, donc ce dictionnaire de culture générale, qui s'intitule comme tel, un dictionnaire de culture générale, voilà, et pas de la culture générale. Vous avez volontairement élidé l'article ?
Oui, parce que l'article donnerait une connotation systématique, et donc par modestie.
Mais culture générale est bien au singulier.
Culture générale est bien au singulier.
Voilà, hein, vous référez là à ce que vous disiez tout à l'heure, justement, sur cette réflexion tout à fait intéressante entre la culture générale et les cultures.
Exactement.
Ici même, sous la coupole, la langue française est ce qui permet ce passage d'ailleurs aussi à l'abstraction. Vous pourriez avoir ce raisonnement dans le cadre de la controverse sur les langues régionales qui n'autorise peut-être pas le passage à l'abstraction qu'autorise la langue française.
Alors, c'est un vaste débat, en effet.
Parce que toutes les langues sont sur le même niveau.
Exactement, tout à fait. Donc, pour qu'il y ait cette communicabilité qui permet justement la généralité, voire, si possible, l'universalité, il faut bien qu'il y ait moyen de passer d'une langue à une autre, et passer d'une langue à une autre au moyen, justement, d'une formalisation conceptuelle précise qui accède à l'abstraction. Et il y a peut-être, à cet égard, un privilège de la langue française.
Le français, l'allemand aussi, bien sûr, pour la philosophie.
Voilà, je veux dire la langue française relativement langue régionale.
Oui, c'est ça. Et les autres langues universelles, enfin l'allemand par exemple, qui permet d'emboîter les mots.
Oui, donc il y a un génie de chaque langue, mais en même temps, la pensée est apte à passer d'une langue à l'autre. Et donc l'esprit doit pouvoir tirer de chaque langue son propre génie au service d'une pensée qui est universelle.
Eh bien, cette pensée universelle, on pourra s'y référer dans ce dictionnaire de culture générale. Frédéric Lopis, vous l'avez dirigé, une vingtaine de contributions. 20 contributions.
20 collaborateurs.
20 collaborateurs que vous avez donc rassemblés dans cet ouvrage. Aux Presses universitaires de France, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à Versailles. Merci.
Merci.